l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3900 francs par jour seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Au troisième jour de sa visite en Nouvelle-Calédonie, vous recevez le ministre des Outre-mer, Manuel Valls.
Monsieur le ministre d'État, bonjour.
Bonjour.
Merci de passer par les studios de Radio Rythme Bleu lors de cette visite en Nouvelle-Calédonie. Une visite de 8 jours, ça veut dire une visite assez longue. Quel est l'objectif que vous êtes fixé ? Vous parlez d'engager les négociations. Est-ce que ça veut dire que vous espérez mettre tout le monde autour de la table, réussir à renouer le dialogue entre les partenaires ?
Je veux d'abord rassurer les Calédoniens. Leur dire que la France, l'État sont là d'abord, nous en parlerons sans doute, pour relancer l'économie. Et puis ensuite pour les protéger face à la violence qu'ils ont connue en mai dernier. Le rôle de la France, c'est un rôle de protection aussi pour construire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Mais je sais également que sans accord politique, donc sans négociation, sans dialogue, l'avenir de la Calédonie serait toujours incertain. Donc oui, cet après-midi, je réunirai l'ensemble des partenaires politiques qui siègent au Congrès autour de la même table, enfin, pour exposer cette méthode et commencer ces négociations aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi. Et si c'est nécessaire, il faudra aller au-delà. Je compte sur la responsabilité de chacun et être à la hauteur du moment, des craintes des Calédoniens, de la peur, de la violence qui s'est emparée de la société. Et je comprends évidemment tous ces sentiments.
Ils seront tous là autour de la table, ils vous ont tous donné leur accord parce que ça fait des mois, voire des années qu'on n'arrive pas à les réunir.
Écoutez, tous à ce stade m'ont donné leur accord. Je connais la richesse, la diversité et la surprise de la vie politique calédonienne. Mais ce que j'ai entendu, et évidemment je suis prudent et surtout très, très, très modeste, c'est en parlant avec les maires, notamment avec les acteurs économiques et sociaux, avec des représentants de la société civile, c'est que là on est à un tournant. Au fond, si les responsables politiques, et je m'y inclus, comme membre du gouvernement de la République, ne trouvent pas des solutions, ne sont pas à la hauteur, alors les craintes que j'exprimais il y a un instant sur le retour de la confrontation, d'une forme larvée de guerre civile, j'aime pas utiliser ce mot, mais enfin, c'est quand même ce que l'on m'a dit aussi à travers un certain nombre de rencontres, et déjà depuis plusieurs semaines, quand je discute avec les élus à Paris ou par visioconférence, s'imposerait. Et donc ça, je ne veux pas. Le rôle de la France, le rôle du gouvernement, le rôle de l'État, c'est de ramener la paix civile et la prospérité économique et sociale, bien évidemment.
Alors, on cherche un accord depuis des années. Les positions semblent irréconciliables entre les partisans de la France qui veulent un maintien dans la République française, les indépendantistes qui veulent une souveraineté pleine et entière. Quelle est votre marge de manœuvre à ce stade ? Quels sont les points de compromis, voire de consensus qui peuvent exister selon vous ?
Il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de principes. Le lien avec la France, déjà, il est là, il est incontournable. On ne peut pas le rompre. Le partenaire logique, naturel, historique de la Calédonie, c'est évidemment la France. Il ne peut pas y avoir un autre partenaire, ça ne peut pas être la Chine, la Russie, l'Azerbaïdjan. Enfin, je souligne un peu le trait, mais chacun comprend bien ce que je veux dire. C'est que la démocratie et l'état de droit s'imposent. Donc là, c'est le travail, évidemment, de la police et de la justice, mais pas seulement. C'est de faire vivre cette démocratie sur ces territoires comme ailleurs. C'est une Nouvelle-Calédonie unie et indivisible, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus de compétences pour les provinces, par exemple. Et c'est ce principe à la fois de solidarité entre les provinces, mais aussi de différenciation qui doit s'imposer, parce que je comprends également les attentes dans la province sud pour favoriser le développement économique. Il en a besoin, après ce qui s'est passé en mai, mais parce que la filière nickel est aussi dans une impasse. C'est le concept de citoyenneté, de peuple calédonien, qui était inscrit déjà dans tous les accords, qui me paraît une belle idée.
Bon, donc, n'entre pas en contradiction avec le peuple premier, puisqu'on sait qu'il y a eu une polémique sur ce sujet.
Vous savez, on est lundi matin. La semaine commence. Elle est cruciale. Et avec gravité, vraiment très sérieusement, je sais que pèse sur mes épaules aussi une grande partie de ce destin, même si il appartient d'abord aux Calédoniens de le construire ensemble. Et donc, c'est la responsabilité des forces politiques. Donc, moi, je ne veux pas alimenter telle ou telle polémique, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a un peuple autochtone, il y a un peuple premier, ça ne souffre d'aucune discussion. Et puis, il y a des gens, des Européens, et pas seulement, qui sont arrivés quand la France a pris possession de ce territoire dans les conditions que chacun sait. Les accords de Nouméa parlait des ombres et des lumières de la décolonisation. Donc, c'est un débat historique. Moi, je suis historien. Ça me passionne. Mais aujourd'hui,
c'est pas pour revenir sur l'expression, c'est que vous parlez de peuple calédonien, ce qui semble inclure effectivement l'ensemble des.
Bien sûr, mais ça ne peut pas être autrement. Il faut regarder l'avenir. Et c'est en respectant chacun. Et moi, je profite de votre micro pour le dire, la main à tous. Parce qu'on est dans un de ces moments où chacun doit être à la hauteur du moment de la responsabilité. Moi, je comprends les gens qui, en m'accueillant samedi, en brandissant le drapeau français, moi je suis un patriote, j'aime les couleurs de mon pays, je comprends, je partage d'ailleurs leur attachement profond à la France, je comprends les craintes, les peurs, il y a eu des morts, le sang a coulé, on parle de racisme, de haine, on utilise déjà de nouveau des mots qu'on n'entendait pas ou peu en Nouvelle-Calédonie. Noir, blanc, canaque, européen, de nouveau, une espèce de face-à-face. On ne ressent pas forcément partout. Hier, en Brousse, ce n'était pas ces sentiments qui prédominaient. Donc, c'est le moment où chacun doit faire un pas vers l'autre. J'évoquais un certain nombre de principes, nous allons y travailler, je réserve évidemment aux partenaires politiques la méthode que je leur proposerai, mais ce que je veux vous dire, c'est que nous ne serons pas spectateurs. Avec Éric Thiers, le conseiller spécial du Premier ministre, qui est avec moi, ici à Nouméa, nous voulons être très engagés sur tous les sujets. On n'est pas spectateurs. Nous avons une responsabilité, c'est permettre de construire cet accord. Donc je serai, comme on dit, proactif, très net sur les choses, sur les principes, les accords de Nouméa, le peuple autochtone, le vivre ensemble, le peuple calédonien. Je serai absolument net et clair et je veux défendre cette position. De même, je veux être intraitable, vraiment, sur les questions de sécurité et de justice. Mes discussions avec les policiers, les gendarmes, samedi et hier matin, les analyses sur les violences qui ont eu lieu, cette église, celle de l'Ave Maria, que j'ai vue détruite, le sort qui a été subi par les sœurs Maris, toutes Kanak, tout ça, évidemment, me révolte profondément. Donc, l'ordre républicain, l'ordre public, sous l'autorité du commissaire ici, il sera établi, nous serons intraitables, il y aura les forces de sécurité nécessaires pour faire face à toute reprise de la violence. La justice, elle passera, nous sommes dans un état de droit, elle passera bien évidemment. Mais je sais que ça ne suffit pas, hein, et qu'il faut, pour éclairer l'avenir de la Calédonie, il faut le redressement économique et la solution politique.
La solution politique, justement, vous dites, vous ne serez pas spectateur, vous serez proactif. On connaît la position des deux partenaires, si tant est qu'il y en ait deux, puisqu'il y a maintenant 6 délégations autour de la table. Mais que veut l'État? C'est la question que se posent les Calédoniens depuis des années. Vous n'êtes pas en cause. Qu'est-ce que l'État veut faire de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que la France veut rester en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que ça lui est indifférent? Les Calédoniens ont parfois de la peine à savoir.
Mais la France, elle est là et elle restera. Quand j'annonce des mesures de soutien économique, comme la prolongation du chômage partiel jusqu'au 30 juin, je dis clairement que les 200 millions dans la loi de finances pour reconstruire 56 bâtiments, dont 16 écoles détruites par les incendies, par les émeutes d'il y a quelques mois, quand l'État dit, au gouvernement, ou quand je dis que nous serons là pour aider au redémarrage de la filière nickel avec de nouveaux partenaires privés, qu'ils soient indiens, sud-africains, émiratis. Quand on veut soutenir, parce que je crois que c'est le grand atout de la Calédonie pour demain, l'énergie, hein, l'économie bleue comme l'économie verte. C'est des projets sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies. Quand j'affirme, comme je viens de le faire devant vous, que l'ordre public sera assuré, bien évidemment, je fais la démonstration, me semble-t-il, que la France, l'État, sont profondément attachés au lien entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Voilà, et donc je connais les positions. Sont-elles plus irréconciliables qu'elles ne l'étaient en 1988? Les violences ont été sans doute d'une autre nature, parce qu'elles se sont déroulées surtout dans le grand Nouméa. Mais moi, je suis lucide, bien évidemment, sur ce qui s'est passé et sur les antagonismes. Mais vous avez raison, il n'y a pas de camp. C'est plus complexe que cela. Il y a beaucoup de formations politiques. Je sens aussi le discours des maires, des partenaires économiques également, qui nous disent, écoutez, aujourd'hui, il faut reconstruire. Que ce soit le président de la Chambre de commerce, la présidente de la Chambre des métiers, la présidente du MEDEF, les grandes familles qui vont réinvestir pour reconstruire les centres commerciaux qui ont brûlé. Mais ce qu'il faut, c'est de la lisibilité, parce que s'il n'y a pas un accord politique, qui va investir de nouveau en Nouvelle-Calédonie? Et puis, moi, je souhaite que ce territoire rayonne par lui-même. Enfin, on a des opportunités ici, dans cet océan Pacifique, qu'il ne faut pas rater. Bon, voilà, je ne suis pas naïf, hein, mais c'est aussi ce message volontariste et optimiste que je veux faire passer à tous mes compatriotes, parce qu'ils sont tous français ici en Nouvelle-Calédonie.
Mais monsieur le ministre d'État, vous le savez, vous avez quand même semé le trouble avec l'une de vos déclarations faites avant votre venue en Nouvelle-Calédonie, en tout cas des propos qui ont été rapportés par le journal Le Monde. La trajectoire est celle qu'il va d'une souveraineté partagée à une souveraineté pleine et entière. Ce sont les accords, il ne peut y avoir de retour en arrière. Certains ont été presque choqués par ces propos en les traduisant comme le fait que l'indépendance était inéluctable en Nouvelle-Calédonie. C'est pas ce que vous avez voulu dire, mais il faut peut-être aujourd'hui encore éclaircir les choses.
J'ai dit exactement ces mots lors des bilatérales, comme on dit, de ces discussions à Paris avec l'ensemble des délégations. J'ai voulu partir, je l'avais dit avant, y compris en répondant à une question du député Emmanuel Djibaou à l'Assemblée nationale. Il faut un socle. Et ce socle, c'est Naville-les-Roches, c'est Matignon, c'est Nouméa. Parce qu'il ne faut pas dévier de ce socle. Parce que si on dévie de ce socle, eh ben, ça donne ça peut donner un rôle de la force à tous ceux qui veulent remettre cette histoire. Il ne faut pas la remettre. Moi, je comprends que certains s'interrogent sur les interprétations. Laissons la place aux historiens. Mais il ne faut pas dévier de ce chemin. Et j'ai rappelé quel était l'objectif. Et j'ai rappelé à chaque fois, d'ailleurs, qu'il y avait eu aussi les consultations que les Calédoniens avaient voté par trois fois. Ils avaient dit trois fois non à l'indépendance. Même si nous le savons, que le troisième référendum a été boycotté et qu'il a, au fond, laissé une forme de goût amer. Mais ils ont voté, bien évidemment. Mais comment on le traduit, cela? Les accords de Nouméa prévoyaient qu'on se remettait autour de la table, qu'on constatait les choses. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé un an et demi après le troisième référendum. Mais il y a eu le 13 mai. Et beaucoup disent qu'il y a eu un avant et un après. C'est sans doute vrai. Le sentiment d'un retour en arrière brutal. Donc, mon rôle, c'est de rappeler un certain nombre de principes, c'est les bases, la démocratie aussi, et c'est de construire cet avenir commun. Il n'y a pas d'autre solution, parce que de toute façon, si un camp veut gagner sur l'autre, s'il veut l'imposer d'une manière ou d'une autre, les mêmes problèmes, les mêmes erreurs se reproduiront et on ira à l'affrontement. Donc il faut l'éviter et c'est l'intérêt, bien sûr, de la France, mais c'est d'abord et avant tout l'intérêt de ce territoire, de ce pays et des habitants, des citoyens qui sont très divers. Il y a aussi un mélange de cultures, même si il y a des formes de face à face. Et si on trouvait ce chemin, c'est pour cela que je passerai du temps et que je continuerai à tout faire pour convaincre. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que s'il y a un échec, s'il n'y a pas d'accord, où va-t-on? On va dans le mur. Et ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'accord. Voilà ce que je veux vous dire. De ce point de vue-là, je suis extrêmement déterminé à avancer cette semaine.
Mais ces trois référendums, pour être très clair, ils interrompent quand même la trajectoire qui avait pu être envisagée il y a 27 ans. Maintenant, les accords de Nouméa ont été signés.
Mais je n'ai pas dit autre chose.
Il y a 27 ans.
J'ai dit, je ne sais pas si c'est la bonne formule, et puis je fais attention à tous les mots. Il faut évidemment achever une étape elle a duré longue entre 1900, elle a été longue, pardon, elle a duré longtemps entre 1998 et 2021. Mais encore une fois, après, on poursuivait les discussions. Comment au fond on l'achève, ou plutôt comment on écrit une nouvelle page. Nous savons qu'il faut écrire un nouvel accord. Ça a toujours été écrit. Donc, si on écrit un nouvel accord, bah, on tient compte de ce qui s'est passé. On tient compte du vote, on tient compte des positions des uns et des autres, on tient compte aussi du principe de réalité. Donc je vous rappelle que, vous savez, je n'aime pas comparer les choses, mais ici, dans cette radio, il y a la mémoire. En 1987 aussi, il y avait eu un référendum. Et si on ne construit pas après le résultat des référendums, si on ne cherche pas à reconstruire, eh bien à ce moment-là, la confrontation vient. Les situations sont très différentes. Les trois référendums qui ont lieu, deux d'entre eux ont vu en plus la participation de tous. Mais nous savons bien qu'il y a deux positions principales qui dominent. Est-ce qu'entre ces deux positions principales qui dominent, il n'y a pas un chemin à construire dans un lien toujours avec la France? La France, elle est là, elle sera toujours là pour la sécurité, pour défendre les intérêts dans cette stratégique, dans cette région, et pour soutenir sur le plan économique ce territoire, mais qui doit s'autogouverner. C'est comme, il n'y a pas beaucoup de territoires en France, il n'y en a aucun, hein, où il y a un gouvernement, où il y a un congrès, où il y a des principes qui dérogent au droit national. Bon, donc, essayons de construire quelque chose de nouveau. L'esprit inventif qui a toujours dominé en Nouvelle-Calédonie doit s'imposer, mais encore une fois, avec une très grande détermination. Par exemple, je dis à tout le monde et je le répète, comme membre du gouvernement, nous n'accepterons pas et je n'accepterai pas que des élus, des responsables politiques jouent avec des puissances étrangères contre l'intérêt national, contre l'intérêt de la France. Ça, c'est inacceptable. On peut défendre ses positions, indépendantistes, non indépendantistes, on peut avoir une vision du monde, mais on ne peut pas jouer avec une puissance étrangère, l'Azerbaïdjan, avec son lien avec la Russie, dont on sait tous, le chef de l'État l'a dit, ces puissances jouent contre la France. Alors, et ça, c'est profondément inacceptable.
Je sens, monsieur le ministre de l'État, est-ce qu'il est normal que des élus qui ont soutenu, voire pour certains, commandité les terribles émeutes de mai, et dont on sait qu'ils ont des liens avec l'Azerbaïdjan, est-ce qu'il est normal qu'ils se retrouvent autour de la table pour discuter un accord de paix et de réconciliation? Les Calédoniens, beaucoup s'interrogent quand même.
Mais on peut parfaitement s'interroger, mais si moi j'exclus, au-delà de ce que peut faire la justice, elle agit, vous le savez, en toute indépendance, et il faut que chacun le comprenne. Mais au-delà de ce que fait la justice, le reste c'est de l'ordre des débats politiques. Et si moi je commence à exclure les gens des délégations, on ne s'en sortira pas. Et d'ailleurs, on donnera du coup le point. On donnera des arguments à ceux qui ne souhaitent pas d'accord. Donc, il faut accepter qu'autour de la table, il y ait ces positions antagonistes ou irréconciliables. Mais mon rôle, c'est de dire à tout le monde ce qui serait et ce qui est inacceptable. Et donc, je le rappellerai, la très grande détermination à agir par tous les moyens, vis-à-vis de ceux qui agissent de cette manière contre les intérêts fondamentaux du pays, en participant au jeu absurde, parce que franchement, et ça se joue beaucoup sur les réseaux sociaux ou à travers ce petit groupe de Bakou, où il y a d'ailleurs aussi quelques élus d'autres territoires ultramarins. C'est le modèle, l'Azerbaïdjan, une dictature qui a, nous le savons, accompli un nettoyement ethnique au Karabakh. C'est ça le modèle d'une puissance ou d'un pays qui a humilié des minorités. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, la France est là, en protection de la Nouvelle-Calédonie, et nous n'accepterons aucune de ces ingérences. Mais dialoguons, construisons l'avenir, parce qu'il y a, je n'en doute pas un seul instant, notamment dans le mouvement indépendantiste indépendantistes, beaucoup, beaucoup, et d'ailleurs ils se sont exprimés déjà, de militants, de responsables, d'élus, qui condamnent ce type de pratique. Donc je veux être clair, et je l'ai été d'ailleurs à chaque fois, vis-à-vis de tous, sur ce sujet comme sur bien d'autres. Vous voyez, je suis ferme sur les principes, et je pense à parler à chacun avec les mêmes mots, avec la même franchise, et avec le même souci de comprendre. J'ai dit aux uns et aux autres, c'est pas un exercice facile, hein, croyez-moi, que je me mettais à leur place, dans leur tête, pour essayer de les comprendre, pour essayer de comprendre leurs sentiments. Et ben, fort de cette méthode, j'espère que nous avancerons.
Le dégel du corps électoral a été un peu le prétexte de ces violences insurrectuelles du mois de mai. Le gel était une mesure transitoire, comprise dans l'accord de Nouméa, ajoutée à l'accord de Nouméa, puisqu'il a fallu modifier la Constitution. C'est une mesure exorbitante du droit commun. Est-ce qu'on va arriver à dégeler ce corps électoral ? Ça aussi, les Calédoniens ne comprennent pas. On leur avait dit que ce serait dégelé à la fin de l'accord.
Oui, mais il le faut, il le faudra. Et donc, ça doit être forcément un élément de l'accord. Mais moi, je constate les faits. Je n'étais pas au gouvernement à l'époque. On n'a pas réussi à travers une réforme constitutionnelle qui ne portait que sur ce sujet-là. Bon, c'est ainsi. L'État doit comprendre, enfin l'État, le gouvernement, les responsables politiques doivent comprendre que c'est une société complexe, c'est difficile, et que c'est vrai que là, que c'était peut-être un prétexte, mais que là, mais en tout cas, voilà comment les choses se sont passées, et on a dû renoncer à cette réforme suite aux violences, mais au-delà de ça, avant il y avait des gens qui avaient averti que cela pouvait se produire, en tout cas qu'il ne fallait pas procéder de la sorte. Donc moi, j'en tire une leçon. Il faut un dégel du corps électoral. Moi, je pense que l'accord est possible, mais dans un accord global.
Alors, ces violences insurrectionnelles ont été ciblées, hein, elles ont mis à terre, c'est l'expression que vous avez employée, l'économie calédonienne. Les dégâts sont considérables. Votre venue vous a permis de mieux les toucher du doigt. Est-ce que vous aviez pris l'ampleur de la catastrophe économique que ça représentait.
Mais vous avez tout à fait raison. Oui, bien évidemment, des images, des propos, des chiffres, plus d'un milliard d'euros, vous traduirez en francs pacifiques, de dégâts dans le secteur privé, les mêmes chiffres à peu près pour les bâtiments publics, une économie au ralenti, du chômage, et avec des répercussions. Hier, en rencontrant des éleveurs, secteur agricole ou de la pêche, chacun est conscient qu'en plus, y a une baisse de la consommation. Donc, du coup, ça a des répercussions sur tous les secteurs. Mais en venant ici, en prenant du temps, en allant sur le terrain, évidemment, l'ampleur de ces dégâts est considérable. Il y avait une dame qui tient un salon de coiffure dans un des centres commerciaux, 70 ans, je crois, elle avait les larmes aux yeux, elle a dû licencier son personnel, elle ne voit pas l'avenir, elle dit que de toute façon, même si on reconstruit le centre et son salon de coiffure, on ne s'en sortira pas, elle ne s'en sortira pas. Bon, donc ça, c'est les témoignages, évidemment, très, très concrets et que je ressens. J'ai vu en même temps, j'ai ressenti une volonté des acteurs économiques, des investisseurs, de reconstruire. Mais évidemment, et j'étais avec Sonia Lagarde, la maire de Nouméa, qui a été tout particulièrement touchée, comme la ville de Dembéa aussi. Est-ce qu'on peut vraiment reconstruire partout ? Est-ce que ça ne serait pas donner une forme de prime à la violence ? Et pourtant, c'est dans les quartiers les plus populaires que ces dégradations ont eu lieu. Lycées, écoles, médiathèques, espaces de musique, donc pour les jeunes. Eh bien, il faudra reconstruire de toute façon, pour peut-être autrement. Ça, c'est le rôle des maires et je leur fais confiance. Il faudra reconstruire parce que c'est indispensable pour que ces services publics concernent toutes les populations. Donc oui, j'ai vraiment pris l'ampleur, d'où les annonces que j'ai déjà faites hier soir et que je compléterai ce soir avec le monde économique.
Les priorités de l'État dans ce vaste chantier de reconstruction, c'est quoi ?
D'abord, c'est un soutien à l'économie. Je pense aux bâtiments et aux travaux publics avec cet argent frais, 200 millions, ce sont d'euros, ce sont des subventions pour construire 56 bâtiments. Et le commissariat a déjà adressé une liste et il y aura sans doute d'autres d'autres bâtiments et les collectivités travaillent avec nous pour établir l'ensemble des bâtiments qui doivent être rénovés. Deuxièmement, et moi j'ai senti chez Alcide Ponga, comme chez Christopher Geyès, la volonté aussi de réforme, de rendre cette économie calédonienne plus dynamique, de l'ouvrir davantage. Quand on parle d'économie bleue, quand on parle d'énergie, quand on parle d'économie verte, quand on parle de redonner la force à l'agriculture, le rôle de l'énergie solaire, bien évidemment, indispensable pour que demain la filière nickel se développe dans d'autres conditions, avec une vraie stratégie. Je sens qu'il y a de la volonté des uns et des autres de changer de modèle économique. Eh bien, le gouvernement sera là. Il y a une mission à mes côtés au ministère des Outre-mer qui va suivre, une mission interministérielle, très concrètement les dossiers calédoniens. Et moi, je veux les entendre, je veux les écouter sur les dispositifs fiscaux, sur la défiscalisation, sur aussi les mécanismes de solidarité entre les provinces. Parce qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a quelque chose qui a totalement échappé, c'est la situation de la jeunesse, qui a échappé aux responsables politiques, qui a surpris, au-delà de la politique et des prétextes. Il y a une partie de la jeunesse qui aujourd'hui se sent, c'est des phénomènes qu'on connaît un peu partout dans le monde, marginalisée. Et donc c'est sur cette jeunesse marginalisée que les discours de haine, les prétextes, les manipulations aussi peuvent s'imposer. Donc nous avons une responsabilité tous, et notamment ici en Calédonie, la part des élus, des acteurs économiques et sociaux, de lui donner une perspective. Et c'est à cela qu'il faut évidemment travailler.
On est obligé de vous demander un mot sur le secteur du nickel. On sait que c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous étiez déjà intervenu quand vous étiez Premier ministre pour aider le nickel calédonien. Après le refus du pacte nickel par les élus calédoniens, que va faire l'État ? Est-ce qu'il va proposer autre chose pour essayer de sauver cette filière qui est fondamentale pour la Calédonie ?
Oui, mais je vais en parler avec le gouvernement. Je vais en parler aussi avec Sonia Baquès, la présidente de la province sud, que je vais retrouver dans un instant pour la rentrée scolaire. C'est comment on développe cette stratégie, comment nous discutons ensemble avec les groupes qui sont prêts à reprendre, à un certain nombre de conditions, bien évidemment, les sites et les usines, soit une qui a fermé dans le nord, soit les deux autres. Donc l'État doit et peut être présent, mais il faut redéfinir une stratégie. Je me réjouis cependant qu'il y ait des offres. Bon. Donc ça veut dire que le territoire intéresse. Comment on peut
l'État
le faire dans
ça ? L'État suit de près ces repreneurs ?
Pardon ?
L'État suit de près les dossiers.
Oui, absolument. Nous les avons rencontrés. Vous savez, il y a une délégation interministérielle auprès du Premier ministre, d'ailleurs, qui suit l'ensemble de ces sujets. Moi-même, j'y suis très attentif. Donc, nous allons travailler. Je crois qu'il y a vraiment des possibilités dans un environnement, il est vrai, très concurrentiel en Indonésie. Et le plus en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est stratégique le nickel, ça va être la question de l'énergie. D'où l'attention que je portais hier à ces sujets lors de mes visites, par exemple à Bouloparis, ou avec les projets à Kouo, les projets d'EDF. J'ai senti que la transition énergétique, avec des usines dans ce domaine-là les plus grandes de France, je parle du solaire, sinon la plus grande, peut être un formidable atout pour la Nouvelle-Calédonie. Ça peut paraître peut-être un peu étrange au moment où commencent ces discussions, mais moi je vois aussi des raisons d'espérer et des raisons d'optimisme.
Monsieur le ministre, il nous faut conclure cet entretien. Quel calendrier est-ce que vous envisagez maintenant ? Alors que le temps presse, on l'a dit, il faut un accord, vous l'avez dit, mais alors quelle échéance fixez-vous pour trouver cet accord ? Et est-ce qu'on peut envisager que les élections n'aient pas lieu en novembre ? Est-ce qu'on peut envisager d'ores et déjà qu'il faille les reporter le temps de trouver un accord ?
Oula, j'en parlerai de calendrier avec les partenaires tout à l'heure. Je ne vais pas donner le sentiment de vouloir tout précipiter, mais je pense qu'un accord est nécessaire, et le plus rapidement possible. à cause de la situation économique. Parce que l'incertitude, je le répète, est un problème pour les investisseurs. On vient de parler de repreneurs. S'il n'y a pas de certitude sur la stabilité du territoire, comment voulez-vous qu'on investisse ici? Bon, on sait qu'il y a des dates, il y a celle du 31 mars pour pouvoir ensuite faire les réformes institutionnelles et constitutionnelles, consulter avant les provinciales. Chacun a compris qu'il faut un accord et qu'on ne pourra pas s'échapper. Et que l'accord, d'une manière ou d'une autre, il doit se réaliser ici, à Nouméa. Est-ce qu'on peut le faire cette semaine? Nous verrons bien. Mais chacun est devant ses responsabilités, encore une fois. Moi, je les assumerai pour aider à construire cet accord d'espérance et de paix pour la Nouvelle-Calédonie.
Monsieur le ministre d'État, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci à vous.
Une interview que vous pourrez réécouter et visionner également sur notre site internet le www.rrb.nc. Il est déjà 8h04, on va marquer une courte pause publicitaire et on se retrouve juste après pour un dernier point sur l'actualité.
L'invité du matin vous a été proposé par Toyota Location. Louez votre Toyota Raze automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro 24 28 28.